Chers auditeurs et auditrices, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce 60e numéro d'En Spectateur, votre émission de critique de spectacle en direct de la journée de la radio. Aujourd'hui, au sommaire, nous discutons de la mise en scène du Suicidé, c'était en salle festive du 7 au 10 avril. Puis je recevrai les membres de la vieille branche, aussi bien la troupe de Nadine que celle de Séverine, pour parler de leur spectacle qui passeront très prochainement en théâtre Cantor. Bonne écoute à vous tous et on commence sans plus tarder. Alors je vous propose d'abord de revenir sur Le Suicidé, une pièce mise en scène par Yann Capron. Et pour en discuter aujourd'hui, deux perdus avisés et avertis bien sûr, ceux d'Antoine à ma gauche, bonjour Antoine.
Bonjour.
Et ceux d'Émilie à ma droite, bonjour Émilie.
Bonjour.
Alors le texte, c'est le texte de l'écrivain russe Nikolai Erdmann, écrit en 1928. L'histoire part d'une bouffonnerie complète. Le personnage Semyon Semyonovitch réveille sa femme en pleine nuit parce qu'il a faim. Il part acheter du saucisson, mais tout le monde pense qu'il est parti se suicider. Ah, lui, il comprend bien, soudain, l'intérêt. Tout le monde a... il a l'attention de tout le monde, tout d'un coup, avec ses envies de suicide. Mais voilà qu'une série de personnages viennent lui rendre visite pour le convaincre, justement, de se suicider. Un boucher, un prêtre, un déchu de l'intelligentsia russe, une prostituée, une amoureuse entretenue. Ah, ça, un suicide, ça défendrait bien leur cause personnelle à chacun. Alors oui, c'est une histoire sordide, mais qu'est-ce que c'est drôle. Alors pour commencer la discussion, votre première impression sur cette pièce en quelques mots. Antoine ?
J'ai beaucoup aimé cette pièce, j'aime autant le dire de suite. Il y a peu d'éléments qui seraient... J'ai vraiment été très agréablement surpris, notamment par le fait qu'il y avait beaucoup d'amateurs et que c'était vraiment ce que recherchait Yann, hein, comme il nous l'a dit à l'interview la semaine dernière. Et du coup, à ce niveau-là, c'est une très bonne surprise.
Et toi, Émilie ?
Je rejoins complètement Antoine. Vraiment, la pièce, c'était une très bonne surprise.
Eh bien, c'est partagé de mon côté également. Alors, j'aimerais d'abord qu'on parle du cadre. C'est une pièce qui n'a pas été jouée en Cantor, mais dans la salle festive, ce qui a permis un certain nombre de jeux de lumière. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce choix de la festive ?
J'ai trouvé ça très malin, en fait, et étonnant, puisque la festive est particulière. Dans son aménagement, il y a deux portes et ils n'ont pas arrêté de jouer avec, créant un couloir en mettant le public des deux côtés, ce qui mettait une contrainte dans le jeu des acteurs et ils s'en sont très bien sortis.
Oui, je trouve également. Et toi, Antoine ?
Oui, je suis complètement d'accord. Rien que le fait, en effet, que la festive était finalement gardée dans sa nudité, par le fait qu'ils n'avaient pas voulu rajouter des tréteaux ou ce genre de choses, il y avait une sorte d'authenticité et quelque chose d'assez fort qui se passait par justement cette proximité qui était voulue par Yann et qui était assez réussie à mon goût.
Ouais, pareil, j'ai beaucoup aimé en fait cette ambiance intimiste qui fait qu'il y avait beaucoup moins de monde dans le public que si on était dans un théâtre comme la Cantor. Mais il y avait vraiment ce côté intimiste comme ça qui... nous rendait assez proches des personnages. Enfin, comme disait Yann, on avait vraiment le nez dans le jeu des acteurs. Alors avant de revenir justement sur ce jeu des acteurs, j'aimerais qu'on parle un peu du texte de Nikolai Erdmann, texte des années 20. Est-ce que c'est une pièce qui vous a fait rire ? Est-ce que le côté farcesque était réussi ? Ça a marché sur vous ?
Oui, complètement, oui. Alors, il n'y a pas de moment où j'étais mort de rire, j'étais pas en train de rire tout le temps non plus, mais d'une façon générale, oui, j'avais le sourire, et puis il y avait ce truc-là de très rafraîchissant, malgré l'obscurité et la noirceur du texte, je ne sais pas si tu en parleras plus tard, mais malgré ce côté vraiment tragique qui était vraiment présent, il y avait vraiment cette fraîcheur qui émanait de la pièce et qui est restée jusqu'après le spectacle.
Oui, la pièce commençait par nous faire rire, au point où on ne voyait pas tout de suite le sous-texte politique, qui était d'ailleurs un peu difficile à voir vu que le texte a été raccourci. Donc on a beaucoup ri et au bout d'un moment on commence à se poser des questions et à se dire qu'il y a peut-être quelque chose d'autre derrière, de très violent.
Ouais, j'ai trouvé ça intéressant que finalement ça arrive progressivement, que ce soit pas un texte qui soit à charge dès le début. Du coup ça permet cette progression vers le tragique finalement. Alors est-ce que vous trouvez que cette négociation du passage du comique au début au très tragique de la fin, fin d'ailleurs je crois qui a été un peu changée par rapport au texte original de Nikolai Erdmann, est-ce que cette transition d'un ton à l'autre était réussie selon vous ?
Alors tu parles vraiment de la toute fin du coup ?
Oui.
Alors la toute fin justement, ouais, c'est un peu le bémol, déjà j'ai trouvé qu'elle était un peu longue la fin, que ça faisait un peu cet effet où une fin qui ne finit jamais et qui est toujours relancée par l'action, et c'était un peu dérangeant j'ai trouvé, surtout donc la toute fin qui était intéressante, qui avait de très bons aspects pour conclure, mais qui était voilà un peu, qui arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe et qui était pas forcément justement bien amenée.
D'accord, et toi Émilie ?
Alors si la fin est discutable, je trouve que dans l'ensemble, la pièce, dans sa progression, était très réussite. On a, rien que dans le jeu des acteurs, au début on a très peu d'acteurs sur scène, c'est souvent des duos, des trios qui ne cessent de circuler, et après on se retrouve avec beaucoup d'acteurs sur scène et les scènes s'allongent. Donc j'ai trouvé que dans la dynamique générale de la pièce, ça fonctionnait bien cet assombrissement progressif.
Ouais. Alors justement, on va parler un petit peu plus du jeu des acteurs. On a vu que c'était des amateurs. Moi, en tout cas, j'ai été assez bluffée par leur niveau de jeu. Tu l'as dit aussi, Antoine. Je trouve qu'il y avait une belle énergie qui se dégageait d'eux. Je ne sais pas si vous partagez un peu cet avis.
Oui, ils étaient vraiment à fond. Tout simplement, ils y croyaient réellement, ils jouaient leur personnage jusqu'au bout et rejoignaient bien ce que voulait faire Yann, d'avoir des personnages assez bouffons. Et voilà, ils ne s'arrêtaient pas à leur personnage et c'était très agréable à regarder.
Ouais, alors peut-être qu'un élément qui vous a peut-être surpris, moi ça m'a déstabilisé au début, mais je m'y suis fait très vite, c'est les personnages qui changent d'acteur ou d'actrice en fait. Par exemple, Cléopâtre, qui est d'abord jouée par un des garçons de la troupe et ensuite qui est jouée par une des filles. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces changements d'acteur-actrice?
Moi, j'avoue que j'ai pas bien compris, justement, parce que tout simplement, enfin, je savais pas qu'il avait pris ce parti pris de mise en scène, et aussi que j'aimais beaucoup comment ça se déroulait au départ. À la limite, ce que j'aimais bien, c'est par exemple, il y avait la même actrice qui jouait au début la belle-mère et après qui jouait la prostituée, je sais pas
oui,
comment
voilà,
dire,
avec son haut léopard.
Voilà, c'était la même actrice, et ça, je trouvais ça bien. Autant qu'une actrice joue deux personnages, je trouvais ça bien, mais par contre, que deux acteurs jouent un seul personnage. Alors je dis pas, ça peut être très bien fait, etc. Mais là, j'ai trouvé pas ça forcément justifié, en fait.
Ouais, et toi, Émilie ?
On va dire que c'était un peu sauvé par les costumes qui permettaient d'identifier très rapidement.
Ouais. Moi, curieusement, ça m'a pas tant gêné que ça, en fait. Je me suis dit que c'est peut-être un moyen de mettre vraiment à distance la psychologie des personnages, en mode on n'est pas là pour faire des personnages réalistes et travailler, et que c'était une forme de mise à distance. Du coup, comme je l'ai interprété comme ça, j'ai trouvé que finalement, ça se justifiait peut-être pas si mal. Alors, une dernière question pour vous deux, la même que toujours. Est-ce que c'est une pièce que vous recommanderiez à nos auditeurs ?
Oui, complètement.
Je le rejoins.
Eh bien, c'est tout pareil pour moi. Et effectivement, il y avait 4 représentations, et ça, c'était plutôt une chance, en dépit du public assez réduit que permettait finalement cette disposition de la salle festive.
Petite précision, Marie, nous n'avons même pas vu le même spectacle en plus de ça, qui nous a beaucoup surpris parce que Yann est devenu aphone le dimanche. Du coup, quand nous avons vu la pièce, il avait un haut-parleur et il parlait avec une voix très monocorde. Du coup, c'était assez drôle parce que vraiment, il y a ces innovations et cette impro qui marche super bien et qui est vraiment à l'essence du spectacle, j'ai l'impression.
Effectivement, oui, ça devait relever un peu le côté absurde de son personnage de l'intelligentsia qui se fait entendre avec un haut-parleur. J'aime bien cette idée de contraste. Alors merci à tous les deux d'être venus répondre à nos questions. Je vous quitte avec une virgule tirée d'un opéra qui dénonce lui aussi les absurdités soviétiques. Il s'agit de Cœur de chien, adapté d'un texte de Bulgakov. Merci à tous les deux d'être venus ici. Alors après cette virgule, place maintenant aux gens de théâtre et pas n'importe lesquels. Je reçois les membres de la vieille branche, la troupe des élèves de l'ENS. Alors d'abord la troupe de Nadine, Lola, Chloé, bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et rebonjour à toi Antoine qui nous parle désormais comme comédien et non plus comme chroniqueur.
Change de casquette, très bien tu verras.
Et oui, j'ai hâte de voir ça. Alors les 24 et 25 avril, vous nous jouez Chopalovitch en théâtre Cantor. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette pièce? De quoi s'agit-il ?
Bah, au départ, c'est une pièce de Lioubomir Simovitch qu'il a écrite dans les années 30, ou non, dans les années 40, je crois.
En 85.
Ah, d'accord. Merci, Lola.
Bon, mais d'accord.
Bien préparé cette rencontre. Non. Non, par contre, la pièce elle-même s'ancre dans un contexte de la Seconde Guerre mondiale. C'est une troupe qui débarque en Serbie. Donc sous l'occupation allemande et qui essaye tant bien que mal de continuer à faire du théâtre malgré les conditions très difficiles de la guerre.
D'accord, donc tout ceci est un petit peu métathéâtral. Alors, comme j'ai un petit peu préparé cette émission, je me suis renseignée et dans la description de la pièce, vous écrivez que vous avez pris des libertés avec le texte d'origine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu davantage ?
Alors oui, alors en fait, nous on n'a pas repris exactement le texte de Simovitch. On a en fait, on s'est inspiré donc de ce texte et on est aussi allé voir du côté d'un texte très récent qui a été écrit à partir donc d'une recréation du texte de Simovitch par une compagnie qui s'appelle la compagnie Les Cent Coups qui a joué donc cette pièce en 2016 au Bouffe du Nord, donc qui s'appelle Notre crâne comme accessoire. Donc c'est vraiment une réécriture qui se fait aussi au niveau du plateau, donc c'est à partir de beaucoup d'improvisation Et donc, on a lu le texte de Simovic, puis on a lu ce texte-là, et on a été assez enthousiasmés. Et
complètement séduit. À la première lecture.
Voilà. Du coup, on a décidé de plutôt reprendre ce texte, mais tout en gardant certains éléments de Chopalovitch. Et donc, Ces libertés, finalement, c'est vraiment un mélange de ces deux pièces. Voilà.
D'accord, donc un travail de recomposition.
Ouais, je voulais juste dire que c'est vrai que le premier texte avait quelque chose d'un peu daté. Il était très écrit, très littéraire, donc d'un côté, on pouvait jouer avec ça. Mais le deuxième avait quelque chose d'aussi plus frais, avec des références peut-être plus actuelles. Bon, après, c'est un parti pris, mais nous, on a pensé qu'il y avait quelque chose de plus dynamique et qui pouvait aussi être plus parlant à l'heure actuelle.
Surtout que le texte donc, de la compagnie Les Sans Coups ne se passe pas du tout en Serbie pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on est dans un contexte...
Un peu anhistorique en fait.
Oui, anhistorique en fait.
Ouais, c'est vraiment revendiqué dès le début cette espèce de décontextualisation pour que cette situation puisse se passer certes en Serbie, mais aussi ailleurs, dans tous les contextes de guerre, que ce soit en Europe ou... Enfin...
Et puis surtout, je crois que c'est ce qui nous a plu à tous à la première lecture, c'est que c'est extrêmement drôle du coup. Alors je sais pas si c'est juste parce que les références sont plus actuelles et que du coup on les comprend mieux et on les reçoit mieux, mais en tout cas il y avait un effet comique qui était assez radical, enfin littéralement on était vraiment mort de rire. Quoi. Enfin c'était pas un truc à la lecture, on s'éclatait quoi, et même encore aujourd'hui on rigole rien qu'en s'entendant réciter le texte, donc c'est vraiment un texte comme ça qui a cette...
Et ce qui est assez étonnant, c'est que c'est ça qui nous a beaucoup plu, oui, que c'était vraiment très drôle quand on l'a lu, quand on était en lecture à la table, et quand on a commencé à jouer, quand on a travaillé, et même aujourd'hui, on se rend compte que sous ce comique qui est remarquable dès le début, il y a vraiment quelque chose de très grave qu'on percevait peut-être pas au début et qui maintenant nous poursuit du début à la fin. Et même si c'est très drôle, enfin c'est vraiment un rire qui grince et qui soulève beaucoup de choses. Et ça, on s'en est vraiment rendu compte de ce sous-texte au fur et à mesure des répétitions et en travaillant vraiment.
Ouais, c'est peut-être les pièces les plus intéressantes, celles qui ont l'air un peu simplement comiques comme ça et dont le sous-texte se révèle progressivement. Alors, quand vous décrivez le spectacle, j'ai eu une petite mention qui a attiré mon œil. Vous parlez de sexe théâtral. Il va falloir m'en dire plus, là.
Alors, c'était pour attirer le public.
Non, mais d'accord. Donc, ce n'est que de la publicité mensongère ou il y a quand même quelque chose derrière ?
Non, pas du tout.
Non, mais en fait, le texte qu'on a utilisé pour notre communication, c'est un texte qui est issu du spectacle lui-même, en fait. Donc, c'est un texte métathéâtral qui est dit par un des membres de la troupe qui est dans la pièce.
Par la chef de troupe, ouais, qui harangue le peuple pour qu'ils viennent voir le spectacle le soir.
C'est ça.
Donc il y a vraiment une espèce de second, troisième degré du fait qu'on l'ait écrit, parce qu'on voilà, a joué comme si on était justement la troupe qui joue en fait, à l'intérieur du spectacle.
D'accord, c'est, ouais, c'est très très méta.
C'est très très méta. Mais après, si ça peut vous rassurer, il n'y a pas de scène de sexe très théâtral.
Ah, moi ça ne me rassure pas, ça me déçoit. Alors du coup, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la troupe ? Combien est-ce que vous êtes déjà ? Et puis nous dire comment vous avez travaillé depuis le début de l'année.
Combien sommes-nous ?
Alors combien on est ? C'est une bonne question. Je pense qu'on doit être une
douzaine. Une douzaine à peu près.
Ouais, un truc comme ça.
Ouais.
Et on a une séance tous les mardis soirs de 2h. Et sinon, on s'est vu environ 3 ou 4 week-ends, à peu près une fois par mois. Et c'était vraiment les séances de travail les plus intensives et les plus productives, parce qu'on avait enfin plusieurs heures devant nous pour avancer. Et généralement, on était aussi dans des espaces plus grands, soit en salle de danse, soit au théâtre. Donc ça, c'est vraiment nécessaire, parce que quand on est juste dans une salle de cours, c'est assez limité ce qu'on peut faire.
D'accord.
Puis on va avoir aussi quelques jours de résidence en Cantor avant notre spectacle, ce qui va nous permettre de beaucoup avancer, je pense aussi.
Bah, presque une semaine, en fait, vu qu'on se voit à partir de
mercredi.
Ouais, mercredi prochain jusqu'à la représentation. Ouais. Il y a aussi eu un travail sur les costumes, puisqu'on est allé voir du théâtre Cantor, et du coup voilà, on va beaucoup s'amuser à ce niveau-là aussi.
Ouais, bah, les pièces de Nadine souvent font appel à beaucoup de costumes très différents. On ne fera pas d'allusion à Antoine qui voulait un costume différent par scène. c'est un secret. Et donc, du coup, vous avez lu le texte en début d'année, et ensuite comment vous vous êtes répartis les rôles, comment ça s'est passé?
On a fait d'abord 2-3 séances vraiment de lecture où on s'échangeait les rôles. On voyait aussi ce qui nous convenait. Je crois que Nadine a pris en compte nos goûts personnels pour les gens qu'elle connaissait déjà. Ou aussi, elle a un certain œil pour savoir quel rôle pourrait correspondre à qui, selon le ton, selon l'engagement physique aussi, je crois.
Elle est assez douée pour ça, d'ailleurs,
ouais.
Je trouve.
Et voilà, mais je pense qu'on est tous globalement satisfaits aussi du rôle qu'on a.
En fait, ce qui est bien aussi, c'est que c'est des pièces qui appelle à beaucoup de personnages typés, et on est enfin les rôles sont très bien répartis, c'est-à-dire qu'on a tous, je crois, des rôles vraiment intéressants, donc c'est ça qui est aussi très bien pour nous et très enthousiasmant.
Et ce qui est justement intéressant, c'est que même si ces rôles paraissent très stéréotypés, ils le sont, et je pense que la mise en scène va revendiquer ça aussi, le travail, c'est justement de ne pas rester à cette superficialité du rôle et d'essayer de chercher aussi ce qui peut les construire, est-ce qu'ils peuvent avoir, enfin, quelle substance ils peuvent aussi avoir en eux, quelle complexité, pour pas juste être ouais, des images.
Ils en ont tous d'ailleurs d'une complexité, c'est ça qui est assez génial. Enfin, ça rejoint ce que tu disais, Lola, c'est vraiment. Il n'y a aucun personnage qui est second en fait. Il y a des personnages qui ont plus d'importance de fait du texte, etc., que d'autres, ça c'est un peu obligé. Mais en revanche, il n'y a pas de personnage qui ressort du fait de son caractère en fait.
Ouais, et même les personnages qu'on peut éventuellement voir un peu moins dans l'enjeu, dans la trame de la pièce, ils ont vraiment un rôle très important. Il y a même un personnage dont on parle beaucoup, qui est même au centre et qu'on ne voit jamais.
D'accord, une espèce d'arlésienne dans la pièce. D'accord. Eh ben, en tout cas, moi, ça m'a donné bien envie de venir vous voir à la rentrée. Merci à tous les trois d'être venus pour répondre à mes questions, et y compris merci à toi, Antoine, qui passe effectivement très très bien de la casquette de chroniqueur à celle de comédien. Et donc, je rappelle que ce sera Chopalovitch, et on a vraiment hâte de voir ça.
Merci.
Alors cette petite virgule était là pour marquer le changement de troupe, et donc je reçois maintenant l'autre moitié de la vieille branche, donc la troupe de Séverine, bonjour.
Bonjour.
Tu es accompagnée donc de Sarah, mais tu as le droit de me redire bonjour Sarah.
Bonjour.
Alors donc vous venez présenter la pièce qui sera jouée juste après Chopalovitch, donc les 27 et 28 avril ce sera In Out Borders, pardon pour mon accent anglais, pièce qui témoigne manifestement d'un lobby géographique à l'ENS, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, donc du coup, lobby géographique à la vieille branche, qu'est-ce que va nous raconter cette pièce? Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'intrigue?
Alors, peut-être, Sarah, tu veux présenter un peu le thème?
Alors, donc, c'est une création entièrement personnelle, enfin, artisanale, entre guillemets. On n'a pas utilisé un texte d'auteur. On a essayé d'écrire la pièce, le texte de la pièce nous-mêmes le plus possible. Donc, c'est sur le thème de la frontière, mais de manière très large. Donc, ce n'est pas seulement la frontière politique ou géographique, même s'il y a beaucoup de géographes, en effet, dans la troupe. En fait, c'est vraiment un assemblage de vignettes qui propose une réflexion très large sur les frontières physiques, corporelles, psychologiques, même mythologiques. Voilà, donc propose une réflexion sur les limites, les séparations, les ruptures de toutes sortes. Du coup, ce qui fait que chacun peut y trouver son compte. Et il n'y a pas vraiment de, je dirais, de, c'est peut-être un peu dissuasif, mais de trame narrative très cohérente, en fait. C'est vraiment...
Voilà, oh, c'est
une
pas
réflexion
forcément,
composite, mais ce qui fait que c'est aussi très riche, du coup.
D'accord, oui, voilà. C'est pas forcément un défaut. Alors, quel est le ton que vous avez voulu donner à cette pièce, du coup? Est-ce qu'il y a des objectifs, par exemple, comiques derrière, ou des objectifs de réflexion?
Alors, il n'y avait pas d'objectif comique, il y avait... On est parti, donc, effectivement, comme vient de le dire Sarah, de ce thème qui est assez large, puisque de la frontière, dès le début de l'année, on s'est dit que la frontière, c'était un terme générique qui pouvait aussi parler de... Effectivement, donc, tu as parlé du mot de limite, de séparation, etc. Et on s'est rendu très rapidement compte qu'on en avait plein, à plein d'endroits. Et ça nous a emmenés dans des champs un peu, parfois même métaphysiques, où on s'est pas mal perdu, parce que c'était ça qui m'intéressait, c'était qu'on cherche ensemble. Et le ton, en fait, n'était pas un objectif en soi. On était sur qu'est-ce qu'on avait envie de dire, en fait, avec ce terme. Donc, évidemment, ça a attiré des géographes, mais pas que, des linguistes, d'autres. Et du coup, c'était cette chose de, voilà, qu'est-ce qu'on a envie de raconter? Et après, la forme, elle est venue ensuite avec l'écriture, en fait. Certains sont partis dans des écritures plutôt intimes, d'autres sur des écritures plutôt un peu humoristiques ou en demi-teinte. Et puis, le ton va être un peu protéiforme, sûrement multiple, comme ce qu'a décrit Sarah, une chose de la mosaïque, en fait. Après, nous, effectivement, ce qui a été dit très tôt par les comédiens de la troupe, c'était qu'on ne voulait pas qu'il y ait quelque chose de dogmatique ou de moralisateur, que la dimension évidemment politique de la frontière est évidemment préoccupante, encore plus peut-être en ce moment, et on vient d'entendre Blabla Mix juste avant, que ces questions des réfugiés, des migrations, qui est lourde, qui est sombre, qui est nous, on voulait la porter, mais qu'on ne voulait pas la scéner, qu'on n'était pas en position d'ailleurs de donner de leçons à qui que ce soit. Et donc, du coup, on passe de la gravité à la légèreté, voilà, ça alterne et ça se promène là-dedans.
D'accord, ce côté protéiforme. Alors, tu as parlé un petit peu de la manière dont vous avez écrit cette pièce. Est-ce que, concrètement, vous deux, vous pouvez nous en dire davantage sur comment ça s'est passé, comment vous avez réparti le travail, combien de temps ça a pris, et nous en dire un petit peu plus sur l'écriture d'une pièce, ce qui n'est pas si courant que ça, en fait, en théâtre cantor.
C'est ça. Alors, comment ça s'est passé ?
Ça a commencé par un atelier d'écriture, en fait, au début de l'année, parce qu'il y a des gens qui venaient avant tout pour écrire, justement. Il y a, voilà, 2-3 personnes du groupe qui disaient qu'ils étaient plus intéressés par la partie écriture que la partie théâtrale. Donc, du coup, voilà, on a passé pas mal de temps à écrire. Séverine nous donnait un mot ou un thème, et à partir de ce mot ou de ce thème, on écrivait. Et après, on se lisait nos textes, en fait, enfin, pour ceux qui avaient envie de lire les textes. Parfois, on les jouait, on les mettait en scène, et puis, en fait, on les a mis de côté, on les a gardés, et on les a réutilisés, enfin, certains, en tout cas. On les a réutilisés plus tard et ça a constitué le matériau, enfin une partie du matériau de la pièce.
D'accord.
Voilà, donc ça, c'était les premiers mois. Et puis après, voilà, on s'est plus lancé dans la création du projet théâtral, quoi.
D'accord.
Voilà. Mais les deux sont quand même, je trouve, très liés parce qu'on a continué à écrire aussi pendant, en fait, même encore parfois maintenant, on se rend compte qu'il y a des choses qui pourraient encore être ajoutées. Donc,
ouais, vous continuez à travailler encore la pièce maintenant ou le texte est à peu près définitif?
On a des éléments du texte, on est plutôt sur des choses de la construction aujourd'hui, puisque donc, comme il y a ce principe de mosaïque, c'est des choses de construction. Là, maintenant, on est sur des problématiques de construction un peu dramaturgiques, j'ai envie de dire, pour utiliser un grand mot, qui sont, voilà, d'où ça part, par où ça passe, et on parlait juste avant de la fin, vous parliez sur le suicidé. La fin est une grande question, et donc on cherche encore notre fin, et donc, voilà, c'est un matériau qui est encore en mouvement, qui est encore en évolution, dans lequel on a intégré aussi, on doit le dire, des textes, des extraits de textes existants, qui sont cités dans le programme. Donc un texte qui s'appelle « Migrant » de Sonia Ristic ou un autre texte qui s'appelle « Ch'to », qui sont des textes, il y a un petit extrait de Coltès. Il y a des fragments vraiment à des moments. Et puis, voilà, tout ça s'articule, s'agence, on fait des filages, on se dit « Ah, celui-là, il faut peut-être le rebouger ». On repart dans le métro après la répétition, on dit « Non, mais alors là, ce qu'il faudrait faire ?» Et ça tricote et ça discute, et voilà.
D'accord. Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières pendant ce travail d'écriture? Est-ce que c'est difficile, par exemple, de mettre un texte de côté, d'en supprimer un, de l'amender, etc.?
Je dirais que parfois, on a été dépassé peut-être par la question de la frontière, qui était tellement large qu'on avait envie de dire beaucoup de choses et que ce n'était pas toujours possible. Il fallait vraiment faire un choix. Après, c'est vrai qu'il y a aussi des textes dont le ton ne correspondait pas trop aussi à ce que nous, on voulait faire. Donc, il a fallu sélectionner. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'énergie dans le groupe. Donc, il fallait trouver, en fait, le juste milieu ou un accord. Voilà. Mais après, c'est quand même bien...
Moi, j'ai pas senti de douleur particulière sur cette chose. Personne n'a été maltraité.
Non, ouais.
Non, pas aucun animal, aucun humain. Non, c'est vrai que tout le monde est conscient du projet collectif et que quand il y a un moment, on dit, bon, ben, ce texte, peut-être, on ne trouve pas sa place. En tout cas, j'ai eu aucune plainte. Donc, pour l'instant,
tout va bien.
La trompe
n'a pas implosé.
Voilà, alors, Sarah, peut-être, c'est le moment.
C'est le moment de dénoncer en public, en direct. Alors, pourquoi cette envie d'écrire un texte cette année, en rupture avec les années précédentes où vous mettiez en scène un texte déjà existant? D'où est-ce que vient cette envie?
Alors, moi, j'avais pas du tout envie d'écrire. D'ailleurs, je n'ai pas du tout écrit. J'avais envie de proposer autre chose, parce que ça fait assez longtemps que j'interviens à la vieille branche. On a fait beaucoup de créations, et puis on est deux intervenantes. Et du coup, je me suis dit que peut-être c'était aussi la possibilité de proposer autre chose. Et en fait, je suis revenue à ce pourquoi j'étais arrivée dans cette école il y a assez longtemps, qui était au départ une demande des élèves d'être accompagnés sur leurs projets à eux, sur leurs propos. Et du coup, j'avais envie de revenir à cette place-là d'accompagnement, de l'élaboration de quelque chose qui vienne porté par les élèves. Donc c'est vrai que j'ai amené le thème. Et si ce principe devait se reproduire, j'aimerais bien que cette fois le thème prochain vienne des élèves, d'une envie des élèves. Et j'avais vraiment... c'est ça qui me touchait, c'était que ce soit ça parte d'eux, que ce soit... En fait, le théâtre, il y a une dimension, évidemment, dans le théâtre, du jeu, de l'amusement, du costume, du personnage, etc. Mais ce qui me plaît aussi, c'est que c'est un outil d'expression et que pourquoi, pour dire quoi, on monte sur une scène? Qu'est-ce qu'on vient raconter? Et ça, c'est quelque chose qui me questionne depuis un moment, dans cette chose de l'appropriation et de, aujourd'hui, de quoi nous parle le théâtre. Voilà, on trouve des textes qui sont tout écrits, qui nous conviennent, mais pas complètement. Et je me suis dit, ben alors, fabriquons-le. Donc, évidemment, ça va être avec plein de petites fragilités. On n'a effectivement pas une pièce toute écrite. On a travaillé avec cette chose du collage, etc. Mais je trouve ça vraiment, tout le processus, tout ce qui s'est passé entre le premier jour où je les ai rencontrés, où ils me regardaient avec des grands yeux effrayés, et j'étais la maîtresse, et c'était, je leur ai dit, mon objectif, c'est qu'à la fin, vous ne me regardiez plus comme ça. Et aujourd'hui, où, voilà, Sarah est en pleine rébellion, et ça ne va pas du tout. Parle, Sarah, ça ne va pas. Voilà, il y a quelque chose où aujourd'hui, c'est leur projet, c'est eux qui me disent, non, mais moi, ce que je pense, il faudrait qu'on fasse ça. Et c'est devenu tout autre, et c'était ça qui m'intéressait vraiment. Puis le thème de la frontière était un thème à la fois politique et sensible et poétique. Et je pensais que ça pouvait être un bon point de départ.
D'accord. Et ben alors, merci beaucoup d'être venu répondre à mes questions. Donc, je rappelle qu'on peut vous retrouver pour In Out Borders les 27 et 28 avril en Théâtre Cantor. Et pour les deux pièces de La Vieille Branche, comme toujours, la réservation à l'avance auprès de notre partenaire en scène est très fortement conseillée parce que ces pièces sont toujours prises d'assaut. Alors, chers auditeurs et auditrices, il va être temps de refermer ce numéro dans Spectateur. J'espère qu'il vous a plu. C'est toujours un plaisir de venir discuter de théâtre sur les planches de ce théâtre. Je remercie donc mes invités du jour, Sarah, Séverine, Antoine, Chloé et Lola. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles critiques de spectacle et on parlera notamment des deux pièces de La Vieille Branche. D'ici là, surtout n'oubliez pas d'aller au théâtre, à l'opéra ou au ballet. Bref, n'oubliez pas de vivre en spectateur.
Merci Marie et Antoine et leurs invités pour cet intermède théâtral. Et sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet avec notre première table ronde consacrée à la radio en campagne. Clément et Pierre reçoivent Olivier Minot et Vincent Martini. C'est à vous.